Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1930 sous le titre allemand Das Unbehagen in der Kultur, Le malaise dans la culture est un essai de psychanalyse sociale et de philosophie de la civilisation. Freud y déplace ses outils cliniques vers la vie collective afin d'examiner pourquoi les sociétés qui protègent les individus et rendent possible une existence commune produisent. Aussi insatisfaction, contrainte et culpabilité. Son point de départ n'est pas une théorie du progrès, mais un conflit durable entre les exigences pulsionnelles et les règles nécessaires à la coexistence. L'ouvrage examine ainsi la recherche du bonheur, la religion, la sexualité, l'agressivité, la morale et les institutions. Freud ne décrit pas la culture comme un simple ensemble de raffinements intellectuels ou artistiques. Il y voit l'organisation qui protège les humains contre la nature et règle leurs relations réciproques. Cette fonction indispensable implique toutefois des renoncements. Dense et souvent polémique, le livre propose un diagnostic sombre mais analytique. Des coupes psychiques de toute vie civilisée plutôt qu'un programme politique ou une promesse de réconciliation définitive. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la civilisation protège les individus tout en limitant leur satisfaction. Freud définit la culture ou civilisation par ses œuvres, ses techniques et ses institutions, mais surtout par deux finalités concrètes, défendre les humains contre les forces de la nature et organiser leurs rapports mutuels. Habitation, savoir, travail, droit, hygiène et ordre social participent de cette construction. Cette définition empêche de réduire la civilisation aux arts ou aux bonnes manières. Elle constitue une réponse collective à la vulnérabilité humaine. Pourtant, la protection a un prix. Pour vivre ensemble, les individus ne peuvent satisfaire librement toutes leurs tendances, notamment sexuelles et agressives. La culture transforme donc une part de la puissance individuelle en sécurité commune. C'est cette double fonction qui explique le malaise, ce qui rend la vie plus sûre ne la rend pas automatiquement plus heureuse. Freud refuse ainsi l'opposition simpliste entre une nature spontanément heureuse et une société purement oppressive. Sans institutions, les êtres humains resteraient exposés à la violence d'autrui, aux besoins et à l'imprévisibilité du monde. Avec elles, ils subissent des interdits et des frustrations. L'essai invite à considérer cette tension comme structurelle. Les conflits sociaux ne viennent pas seulement de mauvaises règles particulières. Il révèle aussi la difficulté de concilier les aspirations singulières avec les conditions de la coopération durable. Deuxièmement, le bonheur demeure limité par le corps. Le monde et les relations humaines, et l'analyse freudienne du bonheur, ne part pas d'une norme morale. Mais du principe de plaisir, les humains cherchent à éviter la souffrance et à obtenir des satisfactions. Cette visée rencontre rapidement trois sources de douleur. Le corps est mortel, fragile et soumis à la maladie. Le monde extérieur impose ses catastrophes et ses limites matérielles. Enfin, les relations avec les autres constituent une source majeure de déception, de rivalité et de violence. La civilisation peut atténuer certaines de ces menaces grâce à la technique, aux soins et aux droits, mais elle ne les abolit pas. Elle ajoute même des frustrations en réglementant les conduites. Freud examine plusieurs voies par lesquelles les individus tentent de rendre la vie supportable au retrait. Activité créatrice, amour, intoxication, maîtrise rationnelle ou croyances religieuses. Aucune ne procure une solution générale et durable, car les dispositions psychiques et les circonstances varient fortement d'une personne à l'autre. Cette prudence distingue son propos d'une théorie du bien-vivre. Il ne propose pas une recette universelle du bonheur, mais souligne son caractère intermittent et précaire. L'intérêt de cette position est de relier les idéaux de bonheur à des contraintes réelles, dépendance corporelle, rareté, attachement aux autres et conflictualité des désirs. Elle conduit à juger les promesses de félicité collective avec circonspection. Troisièmement, l'agressivité est le problème politique et psychique central de la vie commune. Pour Freud, la difficulté la plus décisive de la civilisation ne réside pas uniquement dans la restriction de la sexualité. Elle tient à l'agressivité, à cette propension des humains à dominer, humilier, exploiter ou détruire leurs semblables. L'appel moral à aimer son prochain paraît alors moins une évidence généreuse qu'une exigence révélatrice de la force du problème. La culture doit canaliser cette hostilité afin que la communauté ne soit pas dissoute par la vengeance et la violence. Elle mobilise pour cela le droit, les interdits, l'éducation et l'identification à des collectifs. Mais cette domestication ne produit pas une victoire définitive. Une part de l'agressivité peut se déplacer vers des groupes désignés comme étrangers, ou se retourner contre le sujet lui-même. Freud inscrit cette question dans sa théorie tardive des pulsions, opposant les forces de liaison et de conservation aux forces de destruction. Il ne prétend pas démontrer que chaque guerre ou chaque conflit dérive mécaniquement d'une cause psychique unique. Son argument est plus général, les institutions doivent compter avec une conflictualité qui ne disparaît pas par le seul développement matériel ou intellectuel. Cette thèse donne à l'essai sa portée politique. elle critique les visions qui imaginent qu'une réforme économique, un retour supposé à la nature ou une morale abstraite suffirait à faire naître une harmonie stable entre les humains. Quatrièmement, le surmoi transforme la contrainte sociale en culpabilité intérieure. Le mécanisme le plus original du livre concerne l'intériorisation de l'interdiction. La société ne se contente pas de punir extérieurement les actes nuisibles. Sous l'effet de l'éducation, de l'autorité et des identifications, une instance morale se constitue dans le psychisme, le surmoi. Celui-ci surveille le moi et dirige contre lui une part de l'agressivité qui ne peut être déchargée au dehors. Il en résulte un sentiment de culpabilité, parfois conscient, parfois diffus, qui peut persister même sans faute identifiable. Freud explique ainsi pourquoi le progrès moral ou le renforcement des normes ne conduisent pas nécessairement à une plus grande tranquillité intérieure. Plus l'exigence morale devient rigoureuse, plus le sujet peut se sentir en défaut. Cette idée éclaire le titre même de l'ouvrage. Le malaise n'est pas seulement la plainte contre des règles visibles. Il est une souffrance psychique produite par leur inscription intime. La théorie ne doit pas être comprise comme une condamnation de toute conscience morale. Sans limite intériorisée, la vie collective serait plus exposée à la violence. Mais elle conteste l'idée selon laquelle la moralisation serait sans coût. En articulant conflit externe et conflit interne, Freud montre que l'ordre social survit aussi par une économie de la culpabilité. Cette perspective demeure importante pour analyser les liens entre idéal de perfection, autocritique et obéissance. En dernier lieu, une critique des illusions collectives plutôt qu'un projet de société parfaite, le malaise dans la culture se distingue par son refus des consolations politiques, religieuses ou naturalistes. Freud ne pense pas qu'un retour à une condition originaire libérait les humains des conflits, car une telle condition ne garantirait ni sécurité ni paix. Il ne présente pas non plus l'abolition de certaines structures sociales comme une réponse suffisante au problème de l'agressivité. Les formes historiques de domination et d'injustice comptent, mais elles ne résument pas la vie pulsionnelle. De même, l'essai prolonge sa critique de la religion comme réponse au sentiment d'impuissance et au besoin de protection. Freud ne cherche pas à ridiculiser les croyances individuelles. Il interroge leurs fonctions de réassurance et les effets de leur autorité collective. Cette posture explique le caractère pessimiste souvent attribué au texte. Toutefois, il serait réducteur d'y voir une simple célébration du désespoir. Son ambition est de remplacer les attentes absolues par une lucidité sur les compromis nécessaires. La liberté intellectuelle qu'il défend ne consiste pas à promettre une délivrance totale des contraintes, mais à reconnaître les conditions et les prix de nos idéaux. Écrit à la fin des années 1920, dans une Europe traversée par les crises et les violences politiques, l'essai ne prédit pas précisément l'avenir. Il formule plutôt une question durable: jusqu'où une communauté peut-elle réduire la violence sans accroître démesurément la répression et la culpabilité de ses membres? En conclusion, le malaise dans la culture s'adresse aux lecteurs de psychanalyse, de philosophie politique, de sociologie et d'histoire des idées qui souhaitent comprendre une œuvre majeure de Freud au-delà de sa théorie clinique. Il convient aussi à ceux qui s'interrogent sur les rapports entre sécurité, liberté, violence, normes morales et désillusions politiques. Sa lecture demande de distinguer les intuitions durables de Freud de certaines hypothèses historiques ou métapsychologiques aujourd'hui discutées. L'ouvrage ne fournit ni méthode thérapeutique immédiate ni modèle institutionnel prêt à l'emploi. Son bénéfice intellectuel tient plutôt à une grille de questionnement. Toute règle collective protège-t-elle aussi contre une menace réelle? Quel coût psychique impose-t-elle? Et quelles attentes irréalistes projetons-nous sur la vie sociale? Cette attention au compromis permet de lire plus finement les discours qui promettent une harmonie complète grâce au progrès, à la libération des désirs ou à l'autorité morale. Par rapport à beaucoup de textes de philosophie sociale, le livre se distingue par son effort pour relier institutions et dynamiques inconscientes. Par rapport à des ouvrages psychanalytiques centrés sur le soin individuel, il élargit l'analyse aux mécanismes de la civilisation, en particulier à l'agressivité retournée en culpabilité. Sa force ne réside donc pas dans un optimisme programmatique, mais dans la netteté avec laquelle il expose les tensions que les sociétés doivent administrer sans pouvoir les supprimer entièrement. C'est un essai bref, exigeant et fécond pour penser les limites de toute promesse de bonheur collectif. Si vous souhaitez soutenir Sigmund Freud, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.